enfants assis devant lui sur l'immense tapis de la nurserie ont du mal à cacher leur impatience. Depuis quelques jours, toute la maisonnée du premier Devonshire Terrace à Londres ne parle que de ça, le premier conte de leur célèbre père. Ils l'ignorent parce qu'ils sont encore très jeunes, mais ils ne sont pas les seuls à avoir tant attendu l'histoire du vieil avare Ebenezer Scrooge. Dans tout le pays, on s'arrache déjà le dernier livre, paru il y a 3 jours, de celui que l'on surnomme l'inimitable. Charles regarde ses enfants, 3 bambins aux joues roses en chemise de nuit. Il réfléchit quelques secondes avant de commencer sa lecture. Comme il s'agit avant tout d'un livre pour adultes, il va devoir simplifier quelque peu le texte. Un dernier regard pour ses enfants. Et il se lance dans le récit. Il est 20h dans la nurserie de la famille Dickens et c'est leur H de mon histoire. Un jour, commence Charles, le meilleur de tous les bons jours de l'année, le vieux Scrooge était assis dans son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant et le temps était brumeux. La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis qui se tenait un peu plus loin, dans une petite cellule triste, occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais celui du commis était beaucoup plus petit encore. On aurait dit qu'il n'avait qu'un seul morceau de charbon. Il ne pouvait l'augmenter car Scrooge gardait la boîte à charbon dans son bureau. Alors, le commis mettait son cache-nez et essayait de se chauffer à la chandelle. Je vous souhaite un joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde, cria soudain une voix joyeuse depuis la porte d'entrée. C'était la voix du neveu de Scrooge qui était venu le surprendre. Bah, dit Scrooge, sottise! Quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses? Vous êtes déjà bien assez pauvre. Allons, mon oncle, reprit gaiement le neveu. Quel droit avez-vous d'être triste? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses? Vous êtes déjà bien assez riche. Allons, ne soyez pas de mauvaise humeur. Comment ne pas l'être? Repartit l'oncle. Qu'est-ce que Noël si ce n'est une époque pour payer l'échéance de vos billets? Si je pouvais en faire à ma tête, continua Scrooge d'un ton indigné, tout imbécile qui court les rues avec un joyeux Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans une marmite avec son propre pudding et enterré avec une branche de houx au travers du cœur. C'est comme ça. Charles Dickens est interrompu dans sa lecture par les rires de ses enfants. Il leur sourit et il reprend. « Eh bien moi, répondit le neveu, j'ai toujours regardé Noël comme un beau jour, un jour de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir, le seul dans le long calendrier de l'année où je sache que tous, hommes et femmes, semblent par un consentement unanime ouvrir librement les secrets de leur cœur. C'est pourquoi mon oncle, bien qu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or, je crois que Noël m'a fait vraiment du bien et m'en fera encore. Aussi, je le répète, vive Noël !» Le commis dans sa citerne applaudit involontairement. Que j'entende encore le moindre bruit de votre côté, dit Scrooge avec colère. Et vous fêterez Noël en perdant votre place. Voilà un autre fou, tiens. Mon commis, avec 15 shillings par semaine, une femme et des enfants, applaudissant Noël, non mais vraiment. Le commis alla reconduire le neveu de Scrooge. Le froid était devenu intense dans la rue. Quelques ouvriers avaient allumé un énorme brasier autour duquel se pressait une foule d'enfants déguenillés, se chauffant les mains et clignant des yeux devant la flamme. Fin du premier chapitre, s'exclame Charles en fermant son livre dans un claquement sonore. Il est temps d'aller vous coucher. Oh non, papa, s'il te plaît, se lamente Charlet, l'aîné des enfants Dickens. Allez encore un peu. Non. Il est tard et demain est un grand jour. C'est Noël. Allons, je vous raconterai la suite demain. Papa, peux-tu au moins nous dire ce qui va arriver avec ce vilain monsieur Scrooge ? Charles sourit. Il est un père sévère qui élève sa progéniture avec fermeté, mais il n'a jamais su résister au regard implorant d'un enfant. Il se rassoit et se penche vers Charlet, Marie et Walter. Eh bien, par ce glacial soir de Noël, Scrooge va rentrer chez lui, seul, dîner seul et se coucher seul, comme il le fait tous les autres soirs de l'année. Mais quelque chose d'extraordinaire va se produire cette nuit-là. Il va recevoir la visite de trois esprits de Noël. L'esprit de Noël passé, l'esprit de Noël présent et l'esprit de Noël futur. Ils emmèneront Scrooge faire un grand voyage dans le temps, de son enfance à ses vieux jours, et peut-être que grâce à eux, Scrooge prendra conscience de ce qu'il est devenu. Un homme égoïste, cupide, méchant et solitaire comme une huître. Allons, je vous réserve la suite pour demain. Bonne nuit, mes enfants. Leur curiosité satisfaite, les enfants Dickens se lèvent en trombe et se ruent vers leur petit lit. Charles, toujours assis dans son fauteuil à bascule, contemple les jouets de ses enfants. Des trimpins à la main, un magnifique cheval de bois, des poupées de porcelaine aussi richement vêtues que sa fille. Il regarde enfin le luxueux livre de velours rouge qu'il tient entre ses mains et dont les lettres dorées proclament son nom. Il espère qu'en ce moment même, de nombreuses familles du royaume se sont également réunies autour de son premier comte. Pas seulement celle de la bonne société, mais aussi le petit peuple qui vit plus difficilement. Car pour rendre le luxueux ouvrage accessible à tous, Charles a imposé le prix de vente à ses éditeurs, 5 shillings. Il sait que même si le livre se vendra bien, il n'en tirera aucun profit. Qu'importe. En cette veille de Noël, le jeune auteur, déjà immensément célèbre, de Pickwick, Barnaby Rudge et Oliver Twist, a voulu offrir un peu de chaleur à ceux qui en ont le plus besoin. Mais surtout, en ce milieu de siècle marqué par la misère sociale, Charles Dickens s'est donné pour mission de faire passer quelques messages. Je vous raconte leur âge d'un auteur victorien immensément connu de son vivant. Famille royale, premier ministre, parlementaire, lords, petits bourgeois ou pauvres gens, tous le lisent. Dès leur parution, ces livres sont aussitôt considérés comme des œuvres majeures. À 31 ans, quand il publie son premier conte de Noël, il devient étroitement associé à la fête de la Nativité. Il devient en quelque sorte le Père Noël du royaume. Pourtant, celui qu'on surnomme l'inimitable cherche avant tout à dénoncer les souffrances de tous ceux que l'industrialisation et le capitalisme naissant ont laissés pour compte, en particulier les enfants. Aujourd'hui, je vous raconte leur H de Charles Dickens. Du conte de Noël, d'Oliver Twist, de David Copperfield ou encore des Grandes Espérances ne peut l'ignorer. Charles Dickens a voué sa vie à combattre les injustices sociales. Son arme, la plume. Il réalise très tôt que sa célébrité lui confère un immense pouvoir, celui d'être entendu de toute la société victorienne. Miséreux, victime du système judiciaire, mineur, prostitué, jusqu'aux esclaves des plantations américaines, Charles Dickens n'a de cesse de dénoncer les grands maux de l'humanité au travers de ses romans, mais aussi d'articles pour divers périodiques, de pamphlets ou de discours passionnés. Kant a tous ses laissés pour compte. Ils trouveront enfin une voix chez l'écrivain. Aucun autre avant lui n'a eu autant à cœur de défendre ceux qui vivent dans l'ombre de la bonne société. À 26 ans, quand il visite les usines textiles de Manchester. Nous sommes en pleine révolution industrielle. Pour tous les travailleurs, la journée commence à 5h30, pour ne s'achever qu'à 20h30. Les pauvres gens n'ont que le dimanche pour se reposer. Je n'ai jamais vu une telle masse de saleté, de ténèbres et de misère, écrit-il à son épouse. Mais surtout, Charles est accablé par le sort réservé aux enfants qui n'ont parfois pas encore 10 ans. C'est son premier contact avec l'exploitation infantile. Plus tard, il visite une Yorkshire School, aussi appelée Ragged School, ce qui se traduit littéralement par « école pour les loqueteux ». ces établissements du nord de l'Angleterre aux conditions pitoyables se sont donné pour mission d'inculquer quelque éducation aux enfants indigents et non désirés. Les conditions y sont abjectes. Manque de soins d'hygiène, cruauté, éducation minimale. Il s'agit en somme de sinistres dépotoirs pour les bâtards et les orphelins dont la société n'a que faire. Est-il possible pour ces enfants de tomber plus bas encore dans l'échelle sociale de l'humanité ? Oui. Depuis 1834, Charles est révolté par une nouvelle loi, la Poor Law Amendment Act, qui durcit les critères de soins à domicile apportés aux pauvres. La bonne société anglaise ne tolère plus de financer l'assistance à ceux qu'elle qualifie de « fainéants ». Et pour décourager ceux qui seraient tentés de s'abandonner au bon vouloir du royaume, les indigents sont parqués dans d'insalubres hospices paroissiaux. Travail obligatoire, manque de nourriture et d'hygiène. Les conditions y sont tout aussi déplorables que dans les ragged schools. Mais il y a pire. Pour ajouter au traumatisme des pauvres, mari et femme sont séparés dès leur arrivée pour qu'ils ne puissent plus produire d'enfants pauvres. Quant aux enfants, ils sont arrachés à leurs parents afin qu'ils n'héritent pas de leurs mauvais penchants. C'est ce cadre et ce point de départ que choisit Charles Dickens pour écrire Oliver Twist en 1837. Il s'attaque à la cause des enfants en décrivant, avec une exceptionnelle force narrative, les misérables conditions de vie du pauvre orphelin dans un hospice anglais. Avant Oliver Twist, il n'existait peu ou pas d'histoire prenant pour héros un enfant qui plus est, rédigé à la première personne. Le roman impressionne, choque, éveille les consciences et devient un immense succès, y compris à l'étranger. Mais Charles Dickens ne s'arrête pas là. Un an après Oliver Twist, il s'attaque aux Ragged Schools dans Nicholas Nickleby. L'histoire est fictive, mais s'inspire d'un scandale de l'époque. Le héros éponyme n'est plus un enfant. Il s'agit d'un jeune homme laissé sans le sou à la mort de son père et qui doit entretenir sa famille. Il fait alors appel à son oncle avare qui le force à enseigner dans une Ragged School du Yorkshire. Nicholas réalise rapidement que le directeur de l'école est à l'origine d'une sombre arnaque. Il accueille des enfants non désirés, dont la plupart sont illégitimes, estropiés ou difformes. Et pendant qu'il maltraite et affame les enfants, le directeur se remplit les poches avec l'argent donné par les parents, trop heureux de se débarrasser de ces enfants gênants. Peu de temps après la parution du livre, les Ragged Schools ferment les unes après les autres. C'est une immense victoire pour Charles qui écrira plus tard qu'il est prodigieux d'exercer un pouvoir et de reprendre la plume aussitôt. Mais cette fois, il choisit un tout autre registre. Il publie un conte de Noël, premier d'une longue série de contes célébrant la nativité. Un thème récemment mis à la mode sous l'influence du prince Albert, l'époux de la jeune reine Victoria. D'origine allemande, le prince a ramené avec lui les traditions liées à la fête de Noël, comme les sapins, les cantiques ou encore les cartes. Charles éprouve une certaine méfiance vis-à-vis de la religion. Aussi, la fête de Noël ne représente-t-elle rien pour lui d'un point de vue théologique. Mais il croit en l'amour, l'harmonie qui rassemble l'espace de quelques heures, hommes, femmes et enfants, autour de la naissance d'un bébé. Aussi, le conte de Noël est-il un coup de maître de la part de l'inimitable. Sous couverture de bienveillance et d'esprit de Noël, Charles Dickens dénonce avec virulence ceux qui, en ce jour béni, sont trop occupés à compter leurs sous pendant que d'autres survivent à peine. Comme ce petit garçon infirme, nommé Tiny Tim, et dont l'histoire va toucher le monde entier. Fils de Bob Cratchit, le pauvre commis qui travaille pour Ebenezer Scrooge, Tiny Tim a peu de chances de s'en sortir. Il faudra la visite de trois esprits de Noël pour faire réaliser au vieil avare qu'il est le seul à pouvoir encore changer les choses. Le conte de Noël deviendra un succès phénoménal, en Angleterre évidemment, mais aussi au-delà des mers. L'écrivain William Thackeray, grand rival de Dickens, ne peut s'empêcher d'en faire l'éloge. Qui pourrait écouter des objections concernant un tel livre, dira-t-il. Il me semble être un bienfait national et, pour chaque homme et chaque femme qui le lit, un acte de bonté personnelle. Fort de l'impact de son premier conte, Charles Dickens se lance dans un deuxième conte de Noël quelques mois plus tard. Depuis l'Italie, il rédige Les Carillons, dont le titre est sans doute inspiré par les cloches des nombreuses églises de Gênes, qui l'exaspèrent et le déconcentrent dans son écriture. Cette fois, Charles Dickens ne raconte pas les malheurs d'un enfant, mais la triste vie d'un vieux porteur qui passe son temps à attendre les commissions dans le froid, la pluie et le vent devant une sinistre église londonienne. Le conte porte un touchant message d'espoir pour tous les pauvres gens en quête de bonheur et d'un peu de dignité. Il sera suivi l'année suivante par Le Grillon du Foyer, et à compter de cette époque, Charles Dickens, le grand réformateur, donnera rendez-vous chaque année à ses lecteurs avec un nouveau conte de Noël dénonçant les conditions de vie des plus pauvres et l'indifférence des plus fortunés. Oh papa, raconte-nous la suite du conte de Noël. Charles Dickens, son épouse enceinte de 8 mois et leurs 3 enfants viennent de célébrer Noël autour d'une splendide dinde, accompagnée de marrons et de pommes de terre. Ils ont ensuite dégusté un délicieux pudding de Noël, une spécialité de leur cuisinière. À présent, les enfants se tortillent sur leurs chaises. Ils n'ont pas l'habitude de prendre place à la table de leurs parents et ce dîner leur a semblé bien long. Charles s'esclave ravi de l'intérêt de ses enfants pour son premier conte. « Si vous voulez bien nous excuser, ma chère, » demande-t-il à sa femme en se levant de table. Amusée, Catherine Dickens acquiesce d'un signe de tête, ce qui déclenche immédiatement un brouhaha de chaises suivi de claquements de petits souliers sur le plancher de la salle à manger. Les enfants Dickens se précipitent à la suite de leur père. Ils se réfugient tous dans le salon, joyeusement éclairés par les bougies d'un immense sapin. « Voyons, » commence Charles Dickens, « où en étions-nous ? Tu nous as dit que Scrooge allait recevoir la visite de 3 esprits de Noël, » explique Charlie, l'aîné des enfants Dickens. « C'est exact. En cette nuit de Noël, Scrooge va être visité par les esprits des Noëls passés, présents et futurs, et le premier va le ramener à son enfance. » Charles feuillette le livre de velours rouge. Il réfléchit un peu au passage qu'il va sélectionner pour ses enfants, puis s'éclaircit la voix. L'horloge de la cloche sonna 1h du matin. À ce moment précis, une vive lueur se mit à briller dans la chambre de Scrooge et une main invisible tira les rideaux de son lit. Scrooge, effrayé, se retrouva face au visiteur surnaturel qui l'étirait. « Aussi près de lui que je le suis maintenant de vous, » chuchote Charles, en jetant un œil sur ses enfants apeurés. C'était un enfant. Il portait une tunique du blanc le plus pur et tenait à la main une branche de houx fraîchement coupée. « Je suis l'esprit de Noël passé, » dit le visiteur de sa voix douce et agréable. « Levez-vous, Ebenezer Scrooge, et marchez avec moi. » Là-dessus, l'esprit posa sa main sur le cœur battant la chamade de Scrooge et ils se trouvèrent dans un village. « Bon Dieu, » dit Scrooge, « c'est en ce lieu que j'ai été élevé. » Ils marchèrent le long de la route qui traversait le village. Sur leur chemin, ils croisèrent des habitants qui se souhaitaient un gai Noël. Scrooge et l'esprit de Noël passé s'approchèrent d'une construction en briques rouges. Sous le toit, une vaste cloche était suspendue. « L'école n'est pas encore tout à fait déserte, » dit le fantôme. « C'est Noël, mais il y reste encore un enfant solitaire, oublié par sa famille et ses amis. » Entrons. Ils pénétrèrent dans l'école pauvrement meublée et froide et marchèrent jusqu'à une porte située sur le derrière de l'école. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte, que rendaient encore plus désertes des rangées de bancs et de pupitres. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeuré tout seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura, en se reconnaissant lui-même, oublié, délaissé, comme il avait coutume de l'être alors. Après s'être essuyé les yeux avec sa manche, Scrooge mit la main dans sa poche. « Je voudrais avoir donné quelque chose à cet enfant qui chantait Noël hier soir devant ma porte et que j'ai chassé, mais Mais il est trop tard maintenant. Papa, interrompt Charlie Dickens. Mais pourquoi pleure-t-il, ce vilain monsieur Scrooge ? Eh bien, vois-tu, mon fils, ce vilain monsieur Scrooge, comme tu le dis, se rappelle sa triste enfance, quand il était constamment oublié par les siens. Alors, il se sent coupable de n'avoir pas mieux traité lui-même un autre petit enfant venu sonner la veille à la porte de chez lui. Mais papa, à quel moment Scrooge est-il devenu méchant ? Eh bien, nous allons le découvrir avec le deuxième esprit. Charles se remet à lire. L'esprit de Noël passé ramena Scrooge à sa chambre. Mais à peine s'était-il éclipsé que Scrooge aperçut le deuxième messager, entouré d'une lueur rougeâtre. C'était un joyeux géant, superbe à voir. Ce Noël-là était vêtu d'une robe vert foncé, bordée d'une fourrure blanche, et sur sa tête, il portait une couronne de houx, semée de petits glaçons brillants. « Je suis l'esprit de Noël présent, » dit le fantôme avec un air riant. « Touchez ma robe, mon ami !» Scrooge, impressionné par la haute stature de l'esprit, obéit en tremblant. Alors, ils se transportèrent invisibles dans les faubourgs de la ville, tout droit chez le commis de Scrooge, Bob Cratchit. La demeure de ce dernier était une minuscule maison, mais il y régnait une chaleureuse atmosphère de fête. Madame Cratchit, pauvrement vêtue d'une robe retournée, mettait le couvert pendant que ses enfants surveillaient la marmite remplie de pommes de terre. Entra alors dans la maison Bob Cratchit avec son cache-nez pendant de trois pieds. Ses habits, usés jusqu'à la corde, étaient raccommodés et brossés soigneusement pour leur donner un air de fête. Bob portait Tiny Tim sur son épaule. Hélas,